Studio Tamani, voici les informations en français.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire de cette édition. À Bankass, les oiseaux granivores font des ravages dans certains champs. Des paysans déplorent déjà les pertes causées par ces insectes. Lancement de la troisième édition de la journée du développement durable au Mali. Les acteurs du domaine se sont concertés sur les opportunités d'accès au financement vert. Dans nos sociétés, il existe des actions ou des pratiques qui sont interdites. Très souvent, on ignore le pourquoi de ces interdits. Quelle est l'appréhension de la population sur la question? La réponse dans ce journal à la présentation Adama Amadou Haïda. Des oiseaux granivores ont envahi des champs dans le cercle de Bankass. Déjà, certains paysans ont perdu espoir quant à leur récolte. Ils estiment que les oiseaux granivores causent d'énormes dégâts dans les champs, tandis que les épis de mil sont à l'état pâteux. L'impact des oiseaux granivores sur le rendement de la campagne 2023 dans le cercle de Bankass, un reportage de notre correspondant Adama Dele Togo.
En plus du mil, plusieurs champs d'arachides et de haricots ont été également ravagés par ces oiseaux granivores. Une situation qui inquiète les paysans. Yapuralu Togo est paysanne à Pissa.
Les champs des mil n'ont pas atteint la maturité. Les oiseaux ont tout ravagé. Nous avons tout perdu. Il ne nous reste plus que quelques plantes dosées.
Des élus communaux de Kunlugo confirment aussi ces dégâts causés par les oiseaux granivores. Ils souhaitent le soutien des autorités pour faire face à cette situation. Ayuba Gourou, maire de la commune de Kunlugo.
Les oiseaux ont commencé à faire ces dégâts de tabou maintenant 3 semaines. Ça a commencé par Pissa. Depuis ça, c'est rentré dans ma commune, la commune de Kunlugo. Et dans cette commune-là, il y avait 4 villages que j'avais attaqués. Maintenant, au fur et à mesure, ils sont en train d'avancer dans toute la commune. Nous avons pris des précautions. Presque toute la population de Kunlugo et environnant sont partis les aider à tracer les murs. Ils sont en maturité. C'est très déplorable.
Notons que le cercle de Bankass s'est confronté à ce problème depuis des années. L'an dernier, certaines localités ont décidé d'anticiper sur la période des récoltes pour sauver leur culture. Des agriculteurs ajoutent aussi que depuis plus de 8 ans, il n'y a pas eu de lutte anti-aviaire dans la zone à cause de l'insécurité. Depuis Bankass, Adama Dele Togo pour Studio Tamani.
Cette apparition des oiseaux granivores à Bankass est une pratique habituelle. C'est ce qu'affirment les responsables de l'Office de protection des végétaux. Pour le directeur du service, en cette période, ces oiseaux granivores sont aussi visibles dans plusieurs localités du pays. Cependant, il demande aux producteurs de détruire les nids des oiseaux ou encore de faire le gardiennage des champs. Demba Diallo est le secrétaire général de l'Office de protection des végétaux du Mali. Il est au micro de Mahamoun Baba Kunta.
C'est l'époque de ponte, l'époque de reproduction. Donc, ces oiseaux cherchent des endroits qui répondent vraiment à leurs besoins. Donc, ils ont besoin de l'eau et ils ont besoin également de la nourriture. Donc, quand ces deux sont assurés sur un site, généralement, ces sites-là répondent aux critères. Donc, c'est pourquoi, en cette période-là, on voit la multiplication vraiment de l'apparition des oiseaux à travers nos zones de production végétale. La plupart de ces zones aujourd'hui sont des zones d'insécurité. Il est difficile d'intervenir, sinon, nous avons les équipements qui sont disponibles. Les produits existent, mais il est difficile d'intervenir dans ces zones. Mais c'est aussi c'est des zones marécageuses, donc difficilement le véhicule peut rouler.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le secteur privé et la problématique d'accès au financement vert, c'est le thème de la troisième édition de la Journée du développement durable. Elle est organisée par le Centre international pour le conseil et la formation, CICF. Selon les initiateurs, cette journée vise à informer le secteur privé sur les mécanismes et les opportunités d'accès au financement vert. Un reportage signé Jada Tamaïga.
Le secteur privé joue un grand rôle dans la lutte contre le changement climatique, malgré les difficultés liées à l'accès au financement vert, a indiqué la directrice du CICF. Pour avoir accès à ces fonds, Miniam Bengali propose de former le secteur privé sur les nouveaux mécanismes.
C'est la prise en compte des questions environnementales, sociales et de bonne gouvernance qui peut faire en sorte que les entreprises maliennes puissent émerger, puissent faire de la croissance soutenue et puis créer de la valeur. Ça veut dire que si on doit financer une entreprise, on va se soucier des retombées positives sur la population, sur l'environnement.
Pour Mohamed Zakara, il faut plutôt orienter le secteur privé vers des projets de résilience, de développement durable et de protection de l'environnement.
Pour accéder à ces mécanismes de financement, il faut de la formation, demander plus au secteur privé de mettre l'accent sur des projets de résilience, de protection des forêts, sur les projets aussi de valorisation des déchets qui aujourd'hui incastrent le pouvoir public.
Les participants estiment que cette journée leur permettra d'explorer les produits financiers verts proposés par les banques et les établissements financiers.
Au Mali, dans toutes les ethnies, il y a des actions ou des pratiques qui sont interdites sans qu'on sache souvent le pourquoi. Les personnes âgées sont généralement à la base de ces exigences sociales. La population croit-elle à ces interdits? Quelles sont les vraies raisons? Écoutons Fatmata Bagayogo pour les détails.
On a tous au moins une fois été confrontés à une situation où on nous a interdit de se laver au crépuscule, ne pas siffler la nuit ou encore ne pas balayer la nuit, entre autres. L'avis de la population reste mitigé sur la question.
Ils disent qu'il y a des choses à ne pas faire. Selon moi, tout a une raison.
On dit de ne pas cracher dans la toilette. Je peux affirmer que c'est interdit parce qu'on dit que si tu le fais, tu auras de l'angine. Et c'était mes habitudes. J'avais tout le temps l'angine. Je crois aux interdits.
Je ne crois pas à ces interdits. Tout ce qu'ils disent de ne pas faire, je le fais, mais rien ne m'arrive.
Les traditionnalistes apportent des éclaircissements sur ces pratiques sociales. Nuhum Sissi indique qu'à une époque lointaine, ces interdits contribuaient à réguler la société.
C'était des éléments pédagogiques qui aidaient à bien maîtriser la population. Celui qui vient présenter des condoléances, on ne l'accompagne pas du tout. Celui qui a dit que ce n'est pas bon, il fait partie du collège des anciens. Donc, ce qu'eux disent, là, on est parfaitement d'accord. C'est pas bon. Sinon, ça ne fait absolument rien.
D'autres traditionnalistes ajoutent que ces interdits sont souvent inculqués pour protéger, faciliter le vivre ensemble afin de mieux renforcer les liens familiaux dans la société.
On en vient à notre dossier de la semaine. Travailler dans les champs des beaux-parents est une tradition dans beaucoup de communautés au Mali. Elle vise à renforcer les liens de mariage et l'entraide entre les familles. À Toumia, dans la région de Sang, en pays bois, cette tradition tend à disparaître. Qu'est-ce qui explique cela? Le gendre dans le champ de la belle famille, un dossier de notre correspondant Issiaka Koulibaly.
Les travaux champêtres chez les beaux-parents constituent une valeur traditionnelle à Tominia. Moussa Dao est traditionnaliste. Il nous explique le sens de cette tradition.
Pour certains, les fiançailles peuvent aller jusqu'à 7 ans. Durant toute cette période, le fiancé a le devoir d'aider son futur beau-père dans les travaux champêtres à sa demande. Une fois la demande formulée par l'intermédiaire désigné, le fiancé informe ses camarades d'âge et ses cadets. Ainsi, de commun accord, un jour est décidé pour l'exécution des travaux. Ce jour-là, le champ du beau-père sera totalement labouré.
La trentaine révolue, Pierre Tira est chef de famille depuis plusieurs décennies. Il dit avoir travaillé dans les champs de ses beaux-parents par le passé.
J'ai déjà labouré les champs de ma belle-famille pendant 2 ou 3 ans. C'est une tradition. Tous les jeunes fiancés sont soumis à cela avant le mariage proprement dit. La pratique permet de renforcer les liens avec les membres de la belle-famille.
Travailler chez ses beaux-parents n'est pas une pratique obligatoire. Il est plutôt volontaire, nous dit Emmanuel Tira, un habitant du village de Hasso, à quelques kilomètres de Tominian. Il affirme avoir bénéficié de l'aide de son gendre pour les travaux champêtres.
Cela s'est passé plusieurs fois chez nous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est juste pour magnifier la solidarité. C'est une bonne chose. Quand notre gendre vient travailler pour nous, on lui laisse cultiver une bonne partie de notre champ. Cette pratique renforce la cohésion sociale.
Il faut signaler tout de même qu'il devient rare de voir les gendres dans les champs des beaux-parents. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne sont pas prêts à le faire. C'est le cas de Tchoua Alain Tira, un jeune de Tominian.
Je ne suis pas prêt. C'est un peu difficile pour moi de passer toute une journée dans les champs. C'est trop fatigant. Actuellement, beaucoup préfèrent envoyer de l'argent à leur belle famille en guise de contribution que de participer physiquement aux travaux.
Des traditionalistes appellent la jeune génération à préserver cette valeur culturelle car, selon eux, elle renforce les liens. Issiaka Koulibaly de Tominian pour Studio Tamani.
8 heures passées de 9 minutes dans ce studio, ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez toujours à l'écoute. Juste après le magazine, vous aurez la version Bambara avec Aïssata Diarra. Bonne journée de vendredi à tous.
Un cas de Odeng est diagnostiqué. Le ministère de la Santé et du Développement social recommande d'adopter les mesures de protection pour empêcher la maladie de se propager au Mali.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Elle se caractérise par une fièvre avec des maux de tête, des douleurs aux articulations et peut entraîner des vomissements de sang. Vous avez une sensation de grande fatigue et des boutons sur la peau.
La dengue se transmet par les piqûres de moustiques. Pour se protéger de la dengue, des gestes simples.
Couvrez les fûts et réserves d'eau.
Dormez sous une moustiquaire.
Éliminez les déchets inutiles dans et autour de la maison.
Protégez-vous des piqûres de moustiques en portant des habits longs qui couvrent tout le corps.
Détruisez les gîtes lavaires, eau stagnante, désherbage, vidange, des ordures, etc.
Vous pouvez aussi utiliser les répulsifs, crème, spray, lotion anti-moustique, mais pas chez les petits enfants et pas sur le visage.
Et n'oubliez pas que la moustiquaire est le moyen prioritaire de protection pour les enfants.
Ceci est un message des studios Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social.
Au Mali, des établissements publics scolaires se vident au profit de certains établissements privés. De plus en plus, des parents préfèrent désormais inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Une transition que la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali trouve compréhensive. Par contre, certains responsables d'institutions publiques déplorent cet état de fait. Alors, dans ce magazine, Tous les enfants du Mali de cette semaine, Ali Cissé pose le débat avec les acteurs.
À Bamako et à l'intérieur du pays, il est facile de constater que les écoles publiques sont délaissées au profit des privés. C'est le cas au groupe scolaire Mamadou Konaté au quartier du Fleuve. Abdourahmane Diallo, directeur coordinateur du dit établissement, affirme que de nombreux élèves abandonnent son établissement au bénéfice des écoles privées.
Au sein du groupe Mamadou Konaté, ces derniers temps, nous sommes confrontés quand même à un problème d'effectif. Nous n'avons pas d'élèves ces derniers temps-là. Donc Mamadou Konaté est laissé au profit des écoles privées qui se trouvent même dans les quartiers environnement qui sont chargés d'alimenter Mamadou Konaté. Les parents ont préféré inscrire les enfants là-bas au profit de l'école publique.
Même constat à l'école publique Bandjougou Boiré de Ségou. La directrice Kadiatou Sanogo déplore le manque d'élèves au sein de l'établissement qu'elle administre.
Il y a beaucoup d'écoles aux alentours. Chez nous, nous avons 4 premiers cycles et 5 second cycles. J'aime mon métier, j'ai des enseignants qualifiés. Malgré tout, j'ai un manque d'élèves. Pourtant, ici à Ségou, cela ne devrait pas être un problème. Les parents préfèrent les écoles privées.
La Fédération nationale des parents d'élèves du Mali justifie cette décision par la qualité de l'enseignement, la violence et le manque de sérieux qui sévissent au sein des établissements publics. Son président, le professeur Daouda Sako, indique que l'école ne rime pas avec l'instabilité.
Partout dans le monde, les gens, ils préfèrent aller au public parce que le public, c'est l'État qui gère. Donc, on pense qu'il y a plus de rigueur, il y a plus d'organisation. Il y a plus d'autorité. Mais si la rigueur, l'autorité n'existe pas, la stabilité n'existe pas, le public perd sa renommée. Mais quand on dit qu'aujourd'hui même un élève du lycée ou autre ou plus ne peut pas t'écrire une lettre correctement, ça veut dire que les niveaux laissent à désirer. Et quand les niveaux laissent à désirer, les parents ils scrutent là où ils peuvent trouver le meilleur endroit pour leur enfant. Et peut-être que ces parents ils ont trouvé que le meilleur endroit pour leur enfant, c'est le privé. L'enfant est très précieux. Vous l'amenez là où vous pensez vraiment peut tirer son épingle du jeu.
Les pédagogues fustigent la forme et appellent à la responsabilité de l'État. Pour Seydou Loua, pédagogue, la préférence des parents pour les établissements d'enseignement privé s'explique entre autres par l'insuffisance des niveaux et le manque d'infrastructures scolaires.
D'abord, il faut savoir que les parents vont inscrire les enfants dans des écoles pour qu'ils puissent avoir accès à un enseignement de qualité. Il faut reconnaître que la formation initiale et la formation continue des enseignants fait vraiment défaut au Mali. En dehors de ça, nous avons des problèmes d'infrastructure. Malheureusement, l'État, qui est le premier responsable de l'école publique, a un peu délaissé effectivement l'enseignement public, ce qui pousse aussi les parents à délaisser l'école publique et se diriger vers les écoles privées.
Les grèves incessantes constituent aussi une des raisons de l'abandon du public par certains parents, ajoute le professeur Daouda Sako.